Pour les plus chanceux d'entre nous, il y a encore quelques jours de vacances avant la rentrée. Et pour les autres, c'est déjà fait. La période de la rentrée, c'est toujours une période un petit peu particulière, pour laquelle on peut avoir un petit peu d'appréhension, puisque finalement, on sait très peu de choses sur ce qui va nous attendre. On connaît les grandes lignes, on peut même d'ailleurs stresser par rapport à certaines choses qu'on connaît, et puis il y a en plus tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qui va nous surprendre, peut-être nous déstabiliser, nous prendre au dépourvu. Et il faut réussir à surmonter ce stress pour se jeter à l'eau finalement. Et il y a ce texte que je veux partager avec vous ce matin, où nous voyons les disciples être finalement pris aussi au dépourvu par une situation qu'ils n'avaient absolument pas prévue. Ce texte, il se trouve dans l'évangile de Marc. C'est le chapitre 4, les versets 35 à 41. Jésus est avec les disciples et ils sont au bord d'un lac. Alors que le soir arrive, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule qui était venue pour écouter Jésus, les disciples emmènent donc Jésus dans la barque. Il y avait aussi d'autres barques qui étaient là. Mais soudain, il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Les disciples furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Voilà un texte qui est bien connu, généralement, mais qui est toujours aussi parlant, finalement, parce que nous pouvons nous reconnaître facilement dans cette réaction qu'ont les disciples, complètement terrorisés par ce qui leur arrive. Ce matin, je vais m'intéresser particulièrement à la réaction des disciples, mais aussi à la façon dont Jésus les interpelle. Les disciples, à la fin de cet événement, de ce miracle, sont interloqués et leur question « Qui est-il ?» À ce moment-là, les disciples finalement connaissent encore très peu de choses sur Jésus et ce miracle va permettre à Jésus de leur dévoiler des événements sur sa nature divine, de leur faire comprendre que c'est vraiment quelqu'un de particulier, de chercher à les interpeller. Il montre qu'il dépasse les limites des capacités humaines et en plus il réalise des prophéties qui sont écrites dans l'Ancien Testament. Jésus pousse les disciples à s'interroger. Il leur pose deux questions. Pourquoi avez-vous si peur? J'ai envie de dire, c'est assez évident. Imaginez-vous dans une barque en pleine tempête et l'eau qui rentre dans la barque. Je pense que j'aurais aussi été plutôt effrayée. Et comment n'avez-vous pas de foi? Voilà qui remet sérieusement les disciples en question. Les disciples, à ce moment-là, n'ont pas encore les ressources spirituelles nécessaires pour faire face à ce qu'ils viennent de vivre. Ils ne sont pas capables de répondre finalement aux questions que pose Jésus et à leurs propres questions, mais qui est-il ? Nous aussi, nous pouvons être amenés dans notre quotidien à vivre des situations que nous n'avons pas prévues, qui nous déstabilisent, voire qui nous font complètement paniquer, où nous pouvons nous interroger, mais Jésus, où es-tu? Que fais-tu? Et peut-être qui es-tu? Est-ce que vraiment je te connais? Et ces situations qui viennent nous bousculer, qu'est-ce qu'elles révèlent finalement de nous? Si Jésus venait à la fin nous poser des questions, quelles questions nous poserait-il? Revenons à notre texte et mettons-nous vraiment à la place des disciples qui se sont peut-être demandé, mais comment ça se fait que Jésus se soit retrouvé dans cette situation? Jésus est au début de son ministère, mais les disciples l'ont déjà vu faire des miracles. Ils ont déjà décelé qu'il est spécial, il y a quelque chose. Ils n'arrivent pas encore vraiment à mettre le doigt dessus, mais ils savent qu'il n'est pas comme eux, on va dire. Comment Jésus s'est retrouvé dans cette tempête? Certains vont vous dire que Jésus révèle par là son humanité. Alors, c'est une interprétation que personnellement je n'adopte pas forcément, puisque généralement quand Jésus révèle son humanité, c'est plutôt dans les limites de son corps. Quand Jésus a faim, quand Jésus a sommeil, mais on ne voit jamais Jésus qui est limité dans ses connaissances par rapport aux événements. Je crois plutôt que Jésus révèle là sa souveraineté. Il sait qu'une tempête se prépare, mais il a prévu d'utiliser cette tempête pour révéler sa puissance et instruire ses disciples, leur révéler encore une facette de lui-même. Certains commentateurs vont jusqu'à faire un parallèle avec le futur. Alors, le futur des disciples, c'est le présent pour nous. Jésus, en apparence, est absent, et c'est pour cela que Jésus dort, puisque son sommeil illustre son absence. La tempête représente les difficultés qui nous attendent, nous, aujourd'hui, en tant qu'Église. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jésus enseigne ses disciples, montre sa puissance, et il nous enseigne, nous aussi, aujourd'hui. Bien sûr, nous sommes tous amenés à nous interroger un jour ou l'autre. Et si vous êtes comme moi avec un petit vélo qui tourne très vite dans la tête, vous avez des tas de questions qui surgissent, ça part dans tous les sens. pourquoi, comment, mais comment est-ce que ça se fait, de quelle façon, de quelle manière, et c'est épuisant. Alors, tant qu'à nous interroger, autant nous poser des bonnes questions, des questions qui vont nous aider à avancer, qui vont pas simplement faire tourner le petit vélo. Et par rapport à ce texte, la question que je voudrais poser ce matin, c'est finalement, où est-ce qu'il est le vrai danger dans cette situation ? Est-ce que c'est vraiment cette tempête qui surgit brutalement sur le lac ? Ce qui était en fait un phénomène assez courant à l'époque. Ce lac était connu pour ce genre d'événement. Et en plus, parmi les disciples, on avait quand même des pêcheurs qui étaient assez expérimentés et qui certainement n'en étaient pas à leur première situation difficile. Donc est-ce que c'est vraiment là que nous avons un danger ? Ou est-ce que ça n'est pas plutôt dans la peur des disciples ? La peur qui les empêche de faire face sereinement à la situation. La peur, c'est absolument terrible. La peur nous empêche de réfléchir, et bien souvent, quand on a peur, on a plus peur de ce qu'on imagine que de ce qui va vraiment arriver. Je me suis déjà retrouvée totalement angoissée avec mon petit vélo, à imaginer des situations qui, finalement, ne sont même jamais arrivées. Mais pendant tout ce temps où j'avais eu peur, je n'avais pas prié, je n'avais pas pris de recul, j'avais pas pu réfléchir, je m'étais retrouvée complètement paralysée. Et voilà ce que vivent les disciples. Ils sont complètement paralysés. Ils ont peur de mourir. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Moi, je les imagine là, en train de secouer Jésus, de lui dire « Mais au secours, on est en train de mourir !» Et finalement, même si nous ne sommes pas sur une barque en pleine tempête, il y a des situations dans notre vie qui y ressemblent beaucoup. Et à ce moment-là, posons-nous la question, où est le vrai danger dans cette situation ? Est-ce que c'est vraiment cette situation que je traverse ou est-ce que ça n'est pas plutôt dans ma réaction qui n'est pas forcément celle qui va m'aider à grandir et à avancer ? Vous connaissez tous, j'imagine, ce passage où Pierre quitte la barque. Pas à ce moment-là, une autre barque à un autre moment, pour rejoindre Jésus qui marche sur les eaux. Et Pierre, lorsqu'il pose le pied hors de l'eau, marche sur les eaux. Il regarde Jésus et il marche vers lui. Il vit quelque chose d'absolument miraculeux. Et soudain, que se passe-t-il ? Le petit vélo qui commence à tourner. Alors là, je vois Pierre qui regarde ses pieds, qui se dit mais je marche sur les eaux, mais ça n'est pas possible. Mais comment est-ce que ça se fait ? Et au fur et à mesure qu'il doute, il s'enfonce. Alors là, mon père vous dirait, avez-vous déjà été à la piscine ? Quand vous rentrez dans l'eau, vous ne vous enfoncez pas doucement, vous arrivez très vite au fond de l'eau. Mais Pierre, lui, il s'enfonçait doucement au fur et à mesure que le doute entrait en lui. Jusqu'à ce qu'il crie à Jésus et que ça soit Jésus qui tende la main pour le sortir de l'eau. Dans la vie, tout ce que nous savons, c'est qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée. Prévoir tout le reste, c'est bien difficile. Nous savons qu'il y aura des moments de joie, qu'il y aura aussi des moments douloureux, des problèmes qu'il nous faudra surmonter. Mais dans ces moments-là, dans ces moments où ce ne sont pas les matins qui chantent, Jésus veut nous apprendre à être comme lui dans la barque en train de dormir, finalement en train de lâcher prise et de nous en remettre à lui, en nous disant que c'est en lui seul que nous avons notre salut. Et je vais finir d'une manière un petit peu inhabituelle, puisque je vais inviter Sophie à nous partager un petit témoignage.
Bonjour à tous. Alors, je crois que tout le monde sait que je suis la sœur de Cindy, mais pour ceux qui ne le savent pas, je précise. Donc, quand Cindy m'a dit qu'elle allait parler de ça, qu'elle allait faire cette prédication ce matin, on en parlait dans la voiture. Et du coup, ça m'a fait penser à une prédication que j'ai entendue cet été à un camp. Et celui qui parlait nous disait qu'il existe deux types de chrétiens. Le chrétien carte routière et le chrétien GPS. Et il disait, moi je suis plutôt un chrétien carte routière, c'est-à-dire qu'il y a le point de départ, le point d'arrivée, et j'ai besoin de voir toutes les étapes par où je vais passer, les villes, etc. Et il dit, j'espère que vous êtes plutôt un chrétien GPS, c'est-à-dire qu'on a le point de départ, on entre le point d'arrivée, et on ne sait pas par où on va passer, on ne sait pas par où le Seigneur va vouloir qu'on passe, les détours, on ne sait pas, l'autoroute ou la nationale. Mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'on arrivera à bon port, même si on ne sait pas tout ce qui va se passer entre les deux points. Alors, je suis plutôt, moi aussi, un chrétien carte routière, hein, j'avoue. Et on a eu une illustration ce matin en venant avec Cindy, puisque j'ai rentré donc d'Arnay dans le GPS. On est passé, je ne sais pas par où, parce que c'était des endroits par lesquels on n'était jamais passé, par des petites routes où il n'y avait qu'une seule voiture qui pouvait rentrer. Mais on est arrivé, et on est même arrivé en avance par rapport à l'horaire prévu. Alors on est quand même arrivé à bon port.